Bonjour et bienvenue dans cette émission à l'écoute des pères. Nous poursuivons notre découverte des pères de l'Église. Et aujourd'hui et pendant tout un mois, nous allons parler des Africains. Je veux parler notamment de Tertullien et Cyprien qui ont beaucoup à nous dire pour aujourd'hui.
À l'écoute des pères, l'émission de dialogue RCF sur les pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.
Bonjour Jean Charmois.
Bonjour Amaury.
Très heureux de vous retrouver pour passer de l'autre côté de la Méditerranée, qu'on a déjà franchi plusieurs fois d'ailleurs, hein, mais on va parler, comme on disait, de ces pères africains, maghrébins on pourrait dire, Tertullien et Cyprien. Tertullien qui est le premier père de l'Église en langue latine. Vous allez nous expliquer un petit peu, peut-être en commençant par le situer dans le temps, dans son histoire.
Alors nous sommes 100 ans après la période apostolique. Tertullien naît vers 155 à Carthage, une famille berbère. Son père était centurion. Il a une solide formation de rhétorique, philosophique, etc., les bonnes humanités de l'époque. Mm-hmm. Hein. Et il reste assez longtemps, finalement, dans la croyance païenne. Il le dit d'ailleurs, il dit « Moi aussi, quand il est devenu chrétien, il dit « Moi aussi, j'ai ri de tout cela en parlant de christianisme. » Et puis, vers 40 ans, il se convertit. Et il se convertit, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il voit l'esprit de sainteté qu'il rencontre chez les chrétiens, leur humilité, leur abnégation face aux persécutions, mmh, et la hauteur de la doctrine évangélique. Donc c'est vraiment une conversion par l'exemple.
Il est d'abord touché par le témoignage avant de découvrir la doctrine.
Tout à fait. Mmh. Et il a la proximité des martyrs de l'époque. Il y a eu énormément de persécutions en Afrique. Il a été le témoin des martyrs. Il dit d'ailleurs, on ne naît pas chrétien, on le devient. Mmh. Il faut voir qu'à l'époque, très peu de personnes étaient de famille chrétienne. La plupart des chrétiens étaient des chrétiens qui se sont convertis du paganisme.
Mmh. Il épouse du coup la foi chrétienne, il découvre, il approfondit la doctrine avant de valider, j'allais dire, sa conversion. Ou est-ce que c'est finalement ce témoignage qui le touche, il décide de devenir chrétien et après petit à petit approfondit cette découverte?
Après, assez rapidement, parce que comme il a une solide formation philosophique, il faut voir qu'il parle le grec. Il parlait certainement l'hébreu aussi, parce qu'il cite des passages de la Bible hébraïque dans ses commentaires. Il a une connaissance extrêmement forte de toutes les philosophies de l'époque. Donc il a lu lire ses devanciers grecs. Mmh. Hein, donc il faut voir que l'information circulait d'un bout à l'autre de la Méditerranée à l'époque. Hein.
Et en même temps, on le disait, c'est le premier père de l'Église de langue latine.
Et c'est le premier qui a écrit en latin, et il a laissé des ouvrages qui ont été considérés par tous ses successeurs, que ce soit Cyprien, Augustin, etc., et même tous les pères latins, Ambroise, donc ont vraiment lu Tertullien.
Saint Jérôme en a beaucoup parlé, non?
Alors, il est effectivement, Saint Jérôme en fait l'éloge, Vincent de Lérins, un autre père de Provençal, l'appelle l'Origène latin, mmh. Et par exemple, Jérôme raconte que le secrétaire de Saint Cyprien, le secrétaire de Cyprien qui vit 50 ans plus tard, hein, Cyprien lui dit qu'il répétait souvent « passe-moi le maître » à son secrétaire, et le maître c'était Tertullien. Mmh. Donc Cyprien lisait Tertullien. C'était bon. Alors pour employer une expression un peu cavalière, c'était une grande gueule. Donc c'est quelqu'un
qui... Il en imposait.
Surtout, il n'y allait pas par quatre chemins.
Il
avait épousé la foi chrétienne et il est allé vraiment au combat. Pour lui, c'était un combat constamment contre l'hérésie, contre les insuffisances, contre la faiblesse, contre les mouvements gnostiques, contre ceux qui niaient la Trinité, etc. Donc il a... sans arrêt écrit, et son écriture, si on la lit encore maintenant, bien que ça soit une traduction du latin, donc on la lit en français, on sent qu'il y a un souffle. Mmh. Il n'hésite pas à employer des formules choc. Il est vraiment, c'est un combattant, c'est un guerrier en fait, un guerrier du christianisme.
Et qui veut prouver justement le bien fondé, qui veut donner les éléments clés pour comprendre la foi chrétienne et mettre en avant tout ce à quoi elle répond.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, il écrit un livre qui est, enfin, plusieurs livres qui sont ce qu'on appelle des livres apologétiques, c'est-à-dire qui défendent le christianisme par rapport aux autorités romaines. Mm-hmm. Alors, il faut savoir que les chrétiens étaient à cette époque-là convaincus de faire des choses absolument abominables, de manger de la chair humaine. Bon, c'était la traduction de l'Eucharistie, mm-hmm. D'être des athées, puisqu'ils méprisaient les dieux de la cité. Et donc, ils nuisaient à l'État, en fait. Donc, il défend le christianisme, et ensuite il contre-attaque en stigmatisant les croyances et les fausses croyances du paganisme, leurs contradictions. Et puis enfin, il fait une présentation de la foi chrétienne, en montrant l'Esprit Saint s'oppose à la cruauté des païens, et que le christianisme c'est la patience des martyrs face à la souffrance, à la violence des persécuteurs.
Vous avez peut-être des petites citations justement pour qu'on soit à l'écoute de ce Père de l'Église et de nous partager, et en soulignant aussi un point qui peut être aussi très intéressant pour nous aujourd'hui, de rappeler que Tertullien souligne le rôle positif du chrétien, d'une présence chrétienne dans l'État, comme les chrétiens des citoyens au service de l'État.
Alors Tertullien dit par exemple, qu'on retrouve dans d'autres textes de l'époque, il écrit « Nous vivons avec vous », alors il s'adresse aux païens, « Nous avons la même nourriture, le même vêtement, le même genre de vie. Nous ne sommes pas des brahmanes ou des gymnosophistes de l'Inde. Nous fréquentons votre forum, votre marché, vos bains, vos hôtelleries, vos foires. Avec vous, nous naviguons, nous servons comme soldats, nous travaillons la terre, nous faisons le commerce, nous échangeons le produit de notre travail. » Donc les chrétiens sont au milieu de la cité, sans se distinguer des autres, mais par contre, il dit, « À chaque coup de faux que vous nous portez, » s'adresse aux persécuteurs, « nous devenons plus nombreux, le sang des chrétiens est une semence. » Et ça, c'est un terme qui sera resté très, très,
c'est une
très célèbre.
Qu'on connaît, ouais.
C'est la semence, la semence du christianisme, c'est le sang des chrétiens. Mmh. Et donc, le christianisme ne périra pas. C'est un droit de l'homme, un privilège de sa nature que chacun puisse adorer selon ses propres convictions. La religion d'un homme ne nuit pas à un autre, ni ne la sert. Il n'appartient certainement pas à la religion de contraindre la religion. Texte évidemment très actuel.
Dans ces textes, à travers ces textes et ces écrits, Tertullien du coup combat, j'allais dire, les sujets de son époque et s'inscrit en même temps dans une vraie fidélité à tous ceux qui l'ont précédé quant à la tradition, explication de la foi.
Alors sur le plan dogmatique, il est complètement en phase et dans la tradition de ceux qui l'ont précédé. Si on lit Irénée, on a parlé de Clément d'Alexandrie, d'Origène. Bon, là, sur le plan dogmatique, il est dans la tradition, la Trinité, le Christ, Dieu et homme à la fois. Et surtout, il va forger les termes qui vont être ceux de la foi catholique jusqu'à maintenant.
Par exemple,
la Trinité, ce sont trois personnes. Il va utiliser ce terme de personne et une seule substance, une seule nature. Mm-hmm. Il va utiliser ce mot substance qu'on va retrouver, par exemple, chez Athanase, dans le terme consubstantiel. Mm-hmm. C'est bien la même nature, la même substance. Il y a un seul Dieu et trois personnes. Et ça, ce sont des termes que Tertullien a forgés en latin.
Donc il a beaucoup approfondi avec effectivement la langue latine. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels il a insisté ou qu'il a essayé de préciser, et aussi en utilisant apparemment justement des formules choc?
Alors il a des formules en disant par exemple une célèbre affirmation, « Notre âme est naturellement chrétienne ». C'est-à-dire que le christianisme est conforme à l'âme, il est conforme à la structure de la psyché, de l'âme humaine.
Et pourtant, il dit on ne naît pas chrétien, on le devient. Donc, c'est-à-dire, on est appelé à découvrir cette dimension chrétienne de notre âme.
C'est tout à fait ça. Et il nous dit, par exemple, si nous est prescrit d'aimer nos ennemis, qui pourrions-nous donc haïr ? Donc, certes, il faut aimer ses ennemis, mais il ne faut pas faire des ennemis parmi ses propres amis. Même parmi ses propres amis, on peut pas avoir de mésestime ou d'animosité contre ses proches. Donc c'est vraiment une loi importante. Et puis alors il y a cette phrase qui a fait couler beaucoup d'encre, hein, qui est je crois parce que c'est absurde. Credo quia absurdum.
Qu'est-ce que ça veut dire ça ?
Alors ça veut dire, en fait, il utilise une philosophie d'Aristote. Aristote dit c'est facile de croire ce qui est vraisemblable. Mais ce qui est invraisemblable, on ne le croit que si on le voit. Et alors donc, Aristote dit si un récit invraisemblable parvient malgré tout à se répandre, eh ben ça veut dire qu'il est probablement vrai. Et donc, Tertullien, s'appuyant là-dessus, dit « Le Fils de Dieu a été crucifié, je n'en rougis pas, parce que c'est à rougir. Le Fils de Dieu est mort, il faut le croire parce que cela révolte ma raison. Enseveli, il est ressuscité, c'est certain parce que c'est impossible. »
Et donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire appel seulement à l'intelligence, mais nécessairement à la foi.
Il y a une rupture. Il y a une rupture de l'intelligence et le christianisme s'est tellement répandu que ces choses qui paraissent impossibles ont forcément une base factuelle.
Merci beaucoup Jean Charmois pour cette introduction à Tertullien que nous poursuivons la semaine prochaine en voyant notamment comment il a combattu plusieurs hérésies de son temps.
À l'écoute des Pères, l'émission de dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.